avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le bilan s'alourdit après l'attentat commis par des talibans ce week-end à Kaboul. À l'hôtel intercontinental, 22 corps ont désormais été retrouvés, certains calcinés, difficiles à identifier. Les corps des 6 assaillants qui ont ouvert le feu et déclenché un incendie sont gardés séparément par les autorités afghanes de ceux de leurs victimes. Au moins 11 civils, dont 5 enfants, ont été tués hier en Syrie. Deuxième jour aujourd'hui de l'offensive turque dans la région d'Afrin, au nord donc de la Syrie, contrôlée par les YPG kurdes. Des chars et des soldats turcs au sol, épaulés par l'aviation d'Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan espère éliminer littéralement, physiquement, l'autonomie kurde à la porte de son pays. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Catherine.
Pouvez-vous nous dire donc qui sont les Kurdes d'Afrin visés depuis hier par Ankara?
Alors les Kurdes d'Afrin, et plus largement les Kurdes de Syrie, se sont en fait très tôt affranchis de la tutelle de Bachar al-Assad, dès le début de la guerre civile syrienne. Le régime a évacué les zones du nord du pays, majoritairement kurdes, notamment le canton d'Afrin, mais aussi celui d'Asaké ou Kobané. Là, les Kurdes s'y sont organisés en milices, les YPG, les unités de protection du peuple, très liées au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, en lutte armée contre la Turquie depuis 30 ans. Et les liens sont anciens. C'est Hafez al-Assad, le père de Bachar, qui avait copieusement financé, entraîné et armé ce PKK dans les années 80, lequel PKK lançait ses premières opérations en Turquie à partir justement des cantons kurdes de Syrie. Mais avec la guerre civile en Syrie, les Kurdes des YPG se sont associés aux Américains pour combattre dans le nord syrien l'ennemi principal, l'État islamique. Et ce sont eux qui ont le plus largement contribué à la défaite du groupe djihadiste dans le pays. Ce sont eux qui ont pris par exemple leur capitale, Raqqa, il y a quelques mois. Reste que sur le canton d'Afrin, qui à l'extrême nord-ouest de la Syrie est isolé des autres cantons kurdes au nord-est, sur le canton d'Afrin, les Américains n'ont jamais été présents. Là, les Kurdes ont passé alliance avec les Russes, dont un petit contingent était positionné depuis mars dernier au cœur de l'enclave, histoire déjà d'empêcher toute opération turque. Renversement d'alliance ces derniers jours, Ankara est allé négocier à Moscou une sorte de feu vert pour son opération sur Afrin, qu'elle a manifestement obtenu, le contingent russe s'étant partiellement replié. Reste à savoir ce qui se passera si les Kurdes syriens des autres cantons, lourdement équipés et épaulés par les forces spéciales américaines, se lancent eux aussi dans la bataille d'Afrin. Les soldats turcs et leurs supplétifs syriens pourraient bien se retrouver face à face avec les Kurdes et les Américains, deux contingents de pays de l'OTAN qui finiraient par s'affronter au moins par milices interposées. Moscou ne pouvait probablement pas rêver plus belle perspective.
Eric Biegala, chef du service international de France Culture. Et j'ajoute que la France a demandé et obtenu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, elle se tiendra à huis clos. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont, en exil volontaire en Belgique depuis le 30 octobre dernier, a embarqué ce matin dans un avion devant l'emmener au Danemark où il doit participer à un colloque. En quittant ainsi la Belgique, Carles Puigdemont prend le risque d'être arrêté. Plus de 120 établissements pénitentiaires sur 188 sont totalement ou partiellement bloqués. C'est ce qu'indique ce matin l'UFAPUNSA, le premier syndicat de l'organisation pénitentiaire. Les syndicats de surveillants appellent à durcir la contestation après avoir refusé vendredi dernier de signer les propositions soumises par le gouvernement. Ils doivent être reçus une nouvelle fois aujourd'hui par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. 55e anniversaire aujourd'hui du traité de l'Elysée signé entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer pour sceller la réconciliation franco-allemande. À cette occasion, les deux chambres basses des parlements français et allemand, l'Assemblée nationale et le Bundestag, doivent signer aujourd'hui deux textes communs afin de renforcer leur coopération pour donner une nouvelle impulsion au partenariat franco-allemand. Eux veulent réinventer l'Europe en profondeur. Benoît Hamon et Yanis Varoufakis ont lancé hier leur campagne pour les élections européennes de 2019. L'ex-candidat socialiste à la présidentielle et l'ancien ministre des Finances grecques vont constituer un programme et un agenda commun avec leurs deux mouvements, Génération et Diem 25, ainsi qu'avec d'autres acteurs de la gauche européenne. Le but pour Benoît Hamon, c'est de réaliser un programme axé sur les citoyens et non plus sur l'austérité.
Pour mars prochain, on devrait pouvoir, si le travail se passe bien, annoncer des priorités stratégiques et politiques communes, en clair, de la question de l'alimentation, passant par la question de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, la politique monétaire pour engager la conversion écologique de l'économie européenne, des politiques de garantie d'emploi, la manière dont on financera la cohésion sociale par un vrai budget européen, quelle politique fiscale. Nous ferons des propositions qui sont des propositions de nature à réenchanter le projet européen. Si demain nous sommes élus, ce sera sur la base d'engagements européens clairs. élaborée et partagée avec d'autres Européens, des citoyens, des mouvements sociaux, des associations, des plateformes d'ONG, des partis politiques, et pas sur des bases qui sont celles de la défense d'intérêts nationaux au Parlement européen. Il n'y a pas en clair deux astres noirs. Un astre noir qui serait la poursuite des politiques conservatrices telles qu'elles existent depuis 20 ans et qui nous désespèrent du projet européen. Et un autre astre noir qui dirait, bon bah écoutez, ça on n'en veut pas, mais pour en finir avec ces politiques conservatrices, il faut sortir de l'Europe. Nous, nous assumons de dire qu'il y a largement la place pour une politique progressiste en Europe et qui redonne aux citoyens des raisons de croire et de vérifier que l'Europe est capable d'améliorer leurs conditions de vie, leur cadre de vie, leur environnement, leur emploi, et pas simplement désintégrer ce qui avait été fait depuis 50 ans.
Benoît Hamon répondait à David Ravier. Le temps de ce lundi 22 janvier, encore pluvieux, est marqué par une vigilance orange pour pluie, inondations et crues sur 13 départements de l'Hexagone. Quelques éclaircies par ailleurs en Bretagne dès ce matin, des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine ensuite dans l'après-midi. Les températures sont comprises ce matin entre 1 et 13 degrés d'est en ouest. Cet après-midi, comptez de 7 à 12 sur le nord et l'est, 14 à 19 en général ailleurs et jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Antoine Mercier.